je viens de le dire, parmi les conditions, la dot. Elle marche. Elle marche, c'est une condition nécessaire pour le mariage. Il faut que le mari s'engage à donner à sa femme quelque chose. Une bague en or, un cadeau. Ça peut être quelque chose même de symbolique. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons se sont mariés pour un verset de Coran. Il lui apprend un verset de Coran et il se marie avec elle pour... D'accord ? Mais la tradition veut que ça soit un cadeau de valeur. Un cadeau qui a de valeur. D'accord ? Sans exagérer, mais sans minimiser. Il y en a aujourd'hui qui disent « Moi, je veux rien. » Non, c'est pas que tu veux rien. Ta fille doit se marier selon ses... Les femmes de son rang. D'accord ? Ici, par exemple, en France, on dit généralement, les gens, quand ils vont se marier, ils vont demander, je ne sais pas, 3000 euros, quelque chose comme ça, pour une dot. Ben, on dit c'est 3000 euros. Ou 2000, ou, d'accord ? Il faut quelque chose que ça soit raisonnable. Sans, bien sûr, aller dans les extrêmes. Il y en a qui demandent, je ne sais pas, il y en a qui demandent des 15 000 ou 20 000. Ça, c'est pas normal, c'est pas une dot normale. Il y en a qui te disent 1 euro symbolique. Non, 1 euro symbolique, ça aussi, c'est pas normal. C'est pas quelque chose. On ne marie pas, nous. Parce que la dot, elle a une signification religieuse aussi par la suite. Cette dot-là, si jamais un jour la femme doit demander le divorce, elle doit la rembourser. Vous voyez un peu, elle a cette dot-là, si elle est importante, elle va faire réfléchir la femme 3 fois avant de demander le divorce. Si elle a, donc si elle a demandé, donc il faut qu'elle... Ça c'est d'un côté. Et après, c'est honorer sa femme par un cadeau de valeur. Et parce que ceux qui se marient à 1 euro, le divorce c'est très rapide. Hein, parce qu'on les voit, même l'homme, quand il donne, quand il se montre sérieux, et qu'on lui demande quelque chose de valeur, sans exagérer, l'exagération c'est toujours mauvais. Et qu'il travaille 2 ou 3 mois pour préparer cette dot qu'il a donnée, ben il tient à cette femme-là. Il n'y a pas de deux. Hein. Si on lui a demandé 1 euro symbolique, ben il aura aujourd'hui c'est 1 euro symbolique ici, demain c'est 1 euro symbolique là-bas, et 3. Et on les voit aujourd'hui malheureusement.
Oui. Si la femme demande un divorce, oui. Le mari refuse, c'est possible. Oui.
Il peut refuser. C'est pour ça qu'Allah lui a donné le. Maintenant, si la femme demande le divorce pour des raisons valables. Elle est maltraitée, elle est violentée, elle est son mari est malade, par exemple, il a une maladie qui l'empêche d'être un mari convenable. Donc, il y a des choses comme ça. La femme musulmane doit demander. Soit le mari l'accepte et il la divorce, et ça c'est un divorce ordinaire, d'accord ? Lui, il prononce. Soit le mari dit moi je ne prononce pas de divorce, débrouille-toi avec le juge, et elle va vers le juge. Le juge, c'est lui qui lui dit tu me rembourses ça et je te divorce. C'est le juge qui va la divorcer. Ça, c'est un problème. Et le problème, c'est pas un divorce ordinaire. Voilà, c'est quelque chose de particulier, d'accord. Mais la femme musulmane, quand elles se sont lésées, quand il y a, même si les hadiths, bien sûr, nous demandent de ne pas le... C'est pour ça que le divorce, Allah l'a donné à l'homme et non pas à la femme, parce que l'homme, généralement, aujourd'hui, on a des exceptions. Généralement, l'homme, il est plus raisonnable. Il prend le temps, parce qu'il a payé la dot. Ça aussi, il a donné de l'argent. Il a payé la fête du mariage, il a fait des choses. Il ne va pas divorcer juste parce qu'il est énervé, si c'est un homme raisonnable. C'est pour ça que quand le mariage est bien préparé, quand on a demandé des choses correctement et quand on a fait les choses correctement, l'homme, il a cette responsabilité de maintenir son foyer. Et donc, Allah lui a donné cette responsabilité et généralement, l'homme, il réfléchit aux conséquences de la parole. Généralement. Il ne faut pas dire que toutes les femmes ne réfléchissent pas. Mais les femmes, quand elles sont énervées, quand il y a des émotions, on sait très très bien, parfois la femme, elle peut prononcer des choses et une demi-heure après, elle les regrette énormément. Donc, Allah ne lui a pas donné le droit de divorcer. Le divorce, c'est le droit de l'homme. L'homme peut divorcer. C'est pour ça que c'est de sa responsabilité. Donc, la dot, le cadeau de mariage, est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Moi, je suis contre « je ne demande rien » et contre aussi demander quelque chose qui est trop élevé et qui empêche les jeunes de s'engager dans la procédure du mariage. Quelque chose de raisonnable. Hein. Quelqu'un qui donne, par exemple, deux salaires, c'est raisonnable. Quelqu'un, par exemple, on lui demande, il a 1600 euros de salaire, on lui demande ben, « si tu donnes 3000 euros ben, », c'est raisonnable. Parce qu'il n'y a pas que lui, sa famille aussi va aider tout le monde. Et c'est raisonnable comme d'autres. Mais au-delà de ça, c'est pas raisonnable. De 1000 jusqu'à 3000 euros, ça reste dans raisonnable. Mais aussi demander juste 100 euros ou 200 euros, pour moi, ça aussi, c'est pas quelque chose qui c'est pas bon non plus. D'accord ? Donc c'est... Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam ? Il a dit une parole très importante. Il a dit « Aïsaruhunna mahran, aktharuhunna baraka » Et regardez la précision avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le hadith. Il a dit « Aïsaruhunna mahran, aktharuhunna baraka » Les femmes qui ont la dot la plus aisée, la plus facile, c'est les femmes qui ont le plus de bénédictions. Mais il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam la moins chère, la plus basse. Non, il a dit la plus facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dot, elle dépend de l'homme. L'homme, alhamdoulilah, si Allah lui a donné de l'argent et qu'il est riche, pourquoi ne pas donner 10 000 euros à sa femme? Pourquoi? Pour lui, c'est facile. D'accord? Et l'homme qui est juste, on ne va pas lui demander 10 000 euros. On va lui demander quelque chose qui est facile pour lui, raisonnable. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, quand on réfléchit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est toujours juste. Mais il n'a pas dit, parce qu'il y en a qui croient que le hadith, il dit « aqalluhunna mahran ». Et ça, ce n'est pas la bonne version du hadith. Ce n'est pas « aqalluhunna ». C'est quoi « aqalluhunna » ?« Aqall » C'est le plus bas, le plus bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « aqalluhunna ». Il a dit « aïsaruhunna ». Et entre les deux, il y a une grande différence. « Aïsa »,« yassir », c'est « faisable ». Faisable, quelque chose qui est simple. Pour certains, 10 000 euros c'est simple. Pour certains, 2 000 euros c'est simple. Pour certains, 2 000 euros c'est beaucoup aussi. Alors, quand on demande à un jeune étudiant qui. C'est pour ça qu'il faut prendre ça en considération. Si toi tu as un homme pieux, qui fait la prière, qui a, alhamdoulilah, une bonne famille, qui étudie, qui va, inch'Allah, avoir un travail par la suite ou quelqu'un. C'est la piété qui compte. Et tu dis, même s'il n'a pas d'argent, ben je suis prêt à mettre un prix. Même de ma poche pour lui donner ma fille et pour qu'il prenne soin de ma fille. Aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. Hein. On cherche à trouver quelqu'un de bien pour lui marier notre fille. Parce que malheureusement, les bonnes personnes ne courent pas les rues. Ni côté homme, ni côté femme. Et c'est pour ça que quand on trouve quelqu'un de bien et qui veut s'engager dans le mariage, ben on va le tenir, on va dire, même s'il faut que je te donne moi la dot. Et bien là, tu maries parce que les Khadija radiallahu anha, c'est ce qu'elle a fait. Hein. Khadija, quand elle a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a compris que c'était un homme véridique, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, c'est elle qui lui a envoyé l'émissaire. Elle a envoyé deux fois. Deux fois, deux à deux reprises. Mais ils m'ont. Oumu Aymen et Ammar ibn Yasir, deux, pour lui dire, est-ce que tu as envie de te marier? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Oumu Aymen lui dit, ya Muhammad, il n'était pas prophète à cette époque-là, il avait 25 ans. Hallaka fil hasab wa nasab, est-ce que tu veux une femme noble? Il lui dit, wa man? Il dit, qui? Il dit, Khadija. Il lui dit, man li wa li Khadija? Khadija, comment je peux avoir Khadija moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Et Khadija, c'est la femme la plus riche et la plus noble de Quraysh, qui fait travailler les hommes. Le prophète dit, elle travaille pour elle. Il dit, mais Khadija, comment je peux atteindre Khadija? Et Omar ibn al-Din, c'est elle qui te demande. C'est elle qui te demande. Et le prophète, il a dit, ce soir on sera chez vous. Il a amené Hamza, son oncle Abdul Muttalib, et ils sont partis demander la main. Parce que Khadija, c'est aussi une...
C'était la première fois que se marie.
La première fois, c'était son premier mariage. Il est resté avec elle jusqu'à ses, jusqu'à sa mort pour se remarier par la suite après la mort de Khadija. Mais c'était un vrai soutien. Jusqu'à l'âge de 50 ans, 25 ans de mariage. Et elle est morte, radiallahu anha. Donc, le, la dot, c'est, fait, ça fait partie des conditions. Un imam, quand il fait un mariage, ou n'importe quelle personne qui fait un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la khutbah de khutbah. Al-khutbah c'est quoi? Al-khutbah c'est le discours. Al-khutbah c'est quoi? C'est une demande de mariage. Khutbah ou khutbah. Donc, pendant l'acte du mariage, qu'est-ce qu'on fait? On fait une khutbah. La khutbah, comment elle commence? Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ça c'est le début de la khutbah. Il faut le dire. Il faut absolument le dire. C'est quelque chose qui fait partie de la. C'est pas une obligation. C'est une très une grande recommandation. Et après. Il lit quelques versets du Coran al-Karim pour la bénédiction et après il va demander comment s'appelle la fille qui va se marier. D'accord ? Si un homme a plusieurs filles et qu'il dit à l'homme je te marie ma fille, il en a trois, ben c'est laquelle ? Ah, il faut le citer avec le nom. Hein ? Si l'homme après dit non, mais je ne me suis pas marié avec l'autre, je me suis marié avec le mari. Le père n'a pas cité,
c'est pas clair.
Le nom. Et l'imam doit l'exiger. Tu as combien de filles? 2, 3. Laquelle va se marier? Tac. Et tout le monde, les témoins sont là, ils savent que c'est Khadija qui va se marier. D'accord? C'est quoi ton prénom au mari? Belkacem. C'est Belkacem qui va se marier au Karim avec Khadija. C'est bon, on est clair? Les témoins sont clairs? Ça, c'est des choses à clarifier. Et après, il fixe, il dit la dot. Est-ce que vous êtes mis d'accord sur la dot, le cadeau du mariage? Si on lui dit, non, c'est pas important, on verra après. Il dit non, on verra pas après, on verra maintenant. Si la dot n'est pas fixée, l'imam ne peut pas faire le mariage. Par contre, si on lui dit, c'est bon, on est d'accord, on a fixé la dot et on sait ce que c'est, il n'a pas besoin d'aller plus loin. Il ne demande pas combien, il n'a pas à demander. S'ils veulent le dire lors du mariage, c'est bien. Mais s'ils ne veulent pas le dire, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est que les deux parties sont d'accord sur 2000 euros, une bague, je ne sais plus, des choses que l'homme doit offrir. Ils sont d'accord. Qu'il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord ? Quand on dit une bague, ça c'est très vague, n'est-ce pas ? Ça peut être une bague de 100 euros, que ça peut être une bague de 3000 euros, n'est-ce pas? Donc une bague, c'est pas suffisant. Il faut que les deux familles, quand on dit une bague, c'est quoi une bague? Est-ce que c'est plaqué or, ou est-ce que c'est du hadith, c'est de l'or, ou est-ce que c'est du nhas, est-ce que c'est de l'argent? Non, une bague, c'est, il faut préciser ce que c'est. Pour que les choses, pourquoi? Parce que quand le contrat est clair, est basé sur des choses solides, ben, il n'y a pas d'ambiguïté et on ne laisse pas chacun rentrer par cette porte-là. Parce qu'après, les familles vont dire, ah, on lui a demandé une bague, on a dit une bague, mais nous, vous croyez que ça serait une bague de 4000 euros, mais il a amené une bague de 300 euros. Vous voyez, comment le chacun il peut rentrer par cette porte-là? Comment? Ben, on n'était pas clair dès le début. Et moi, j'ai vu des... pour ça que j'insiste beaucoup sur ça, les choses doivent être claires, et on fixe les choses d'une manière explicite pour ne pas laisser la porte ouverte à Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, il précise cela d'une manière claire. Et quand ils sont d'accord sur la dot, ben ils demandent, vas-y, bismillah, si le mari est avec son père, ben c'est son père qui parle, généralement. Ou il veut parler, lui, il n'y a pas de problème. Mais pour la femme, c'est son père qui va la représenter. Et là, il leur dit, je vous demande de vous échanger les consentements. Donc le père, il demande d'une manière claire, en arabe, en français, en une langue que tout le monde comprend, et le père de la mariée dit « j'accepte » et après on fait « dua » et on lit le Fatiha si on veut, c'est pas obligatoire, hein, parce qu'il y en a qui croient que la livre de Fatiha c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. On peut le faire pour la bénédiction, si on le fait pas, il n'y a pas de problème. Et on fait « dua » pour le couple et voilà, le mariage est conclu de cette manière. Oui, c'est très simple, mais c'est un engagement qui est lourd de conséquences. Donc il dit يُسْتَحَبُّ النَّظَرُ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ. Il dit, il est recommandé dans notre religion de voir la femme avec qui on va se marier avant le mariage. Il ne faut pas se marier comme avant, directement, sans jamais voir sa femme. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abdullah, quand un de ses compagnons s'est marié, il lui a dit, est-ce que tu l'as regardé? Et l'homme lui a dit, non, je n'ai pas regardé. Il lui a dit, vas-y, va la voir. Va la voir. Et assure-toi que cette femme peut te convenir. C'est très important, le premier regard. Là. On est humain. Et c'est quelque chose d'important dans le mariage. Pour que le mariage soit solide par la suite.
Des fois oui, des fois non, cheikh.
Ah oui, c'est vrai.
Moi, mon père, il s'est marié avec ma mère, il n'a pas vu. Hein.
Oui, oui. Moi aussi.
Moi, je peux vous le dire. Hein.
Oui. Et ça a très très bien marché. Ça a très bien marché.
À la fin.
Donc, oui. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète exigeait ça. Mais c'est vrai que chaque époque a une culture différente. Ce qui marchait il y a 60 ans, il ne marchera pas aujourd'hui. Là, on demande juste que les gens diminue un peu le regard, parce que là...
Il regarde trop.
Là, c'est trop, là. C'est pas regarder, c'est évident. C'est rester ensemble, je sais pas combien de temps, pour après se marier. Ça, c'est aussi... On demande juste... Mais, tu as raison, parfois ça peut marcher, c'est Allah qui met la baraka et la bénédiction. Et les gens étaient aussi raisonnables. Quand ils s'engagent pour de bon.
La niya,
c'était sa femme, c'est bon, Allah m'a donné cette femme, là, c'est bon, vous voyez, c'est...
Le plus important, c'est que ce ne soit pas un mariage forcé.
Exactement.
Que ce soit d'accord tous les deux.
Tous les deux, exactement. Oui. Le mariage forcé ne fonctionne pas généralement. Ça peut durer quelques mois, ça peut durer quelques années, mais ça finira par casser. Donc... La chose la plus importante aussi dans un mariage, pour l'imam, de vérifier avant de marier des gens, c'est de s'assurer que le mariage est légal, qu'il n'y a pas de lien de parenté. Hein, imaginons qu'il y a eu un allaitement. Cette femme a été allaitée par la même femme que le mari. Et c'est son frère, donc. C'est son frère de lait. Ça devient... aujourd'hui, on le vit beaucoup, ici en France, c'est que cette femme-là n'a pas d'autre mari. Parce qu'il se peut qu'une femme vienne se marier alors qu'elle a un contrat avec un autre homme. Elle n'a pas annulé l'ancien contrat. Soit elle est mariée religieusement avec quelqu'un, le divorce n'a jamais été prononcé, donc elle est encore mariée avec l'autre. Soit elle est mariée civilement avec quelqu'un et qu'elle attend les papiers de divorce. Mais le divorce n'a pas été prononcé. Ben, on ne peut pas marier, on peut pas... Une femme ne peut pas avoir un contrat civil avec un homme, il y a un contrat religieux avec un autre homme. Elle est mariée à deux hommes, dans ce cas-là. Et ça, l'imam, c'est de son rôle. Hein? Il demande, il s'assure. Il dit, est-ce que cette femme était déjà mariée? On lui dit non. Très bien, jamais mariée, bismillah. Il prend les... On lui dit, si, elle était mariée. Est-ce qu'il y a eu un divorce? C'est en cours. Ah non, je ne viens pas. Je veux que le divorce soit complètement prononcé. D'accord? C'est quelque chose, c'est comme ça qu'un imam doit faire. Un imam ou n'importe quel homme qui assiste au mariage.
Et cette question, il la pose qu'à la femme, pas l'homme.
Non, non. Non, alors oui, à la femme.
Qu'à la femme, l'homme.
Oui, parce que si l'homme dans, l'autre fait, cas, dans l'autre ouais. cas, c'est pas un mariage haram. Dans le cas où la femme est mariée, c'est un mariage haram. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui contredit une mariée. Tu maries une femme qui est déjà mariée. De l'autre côté, tu peux lui demander. C'est illégal, mais c'est pas haram. Il y a la différence. Donc, chacun prend ses responsabilités. Mais le problème, l'imam, s'il marie une femme qui est déjà mariée, qui a un contrat avec un autre homme, ça, sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pas juste eux, donc c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Quels sont les critères qui vont rendre la vie heureuse entre un homme et une femme? Il dit antakuna salihatan dhata din, que la femme soit une femme pieuse et attachée à la religion. Il dit ça, c'est l'essentiel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tunkahu al-mar'atu limaliha li'arba'a. لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Dit la femme est généralement épousée pour quatre critères, quatre raisons. لمالها, pour son argent, pour sa beauté, pour sa position sociale, sa famille, et pour sa religion, sa religiosité plutôt, sa religiosité. فاظفر, donc il dit obtient. Toi, musulman, la femme qui a la religiosité, tu as fait le meilleur choix. Parce que si tu te maries avec une femme qui est attachée à la religion, c'est le meilleur choix. Ça veut dire quoi ce hadith? Ce hadith, il néglige pas les autres critères. Parce qu'il dit, la femme, on peut se marier avec elle pour son argent, pour sa beauté, pour sa position sociale. Mais pour sa religiosité, c'est la meilleure chose chez une femme. C'est comme si vous avez un. Le 1, c'est la religiosité. Et la beauté, c'est un 0 après le 1. La richesse, c'est un autre 0 après le 1. Et la position sociale, c'est un autre 0 après le 1. Donc, tu te maries avec elle, tu as fait 1000. D'accord? Mais si tu enlèves le 1, si tu enlèves le 1 qui est la religiosité, les autres, la religion, est-ce que c'est que des zéros, 0, 0, 0, 3, 0 alignés, ça ne te donne rien. Mais si tu as le 1 qui est devant, bah ça te donne tout. Mais si tu as juste un 0 derrière, c'est déjà pas mal. Si tu en as deux, c'est encore mieux. Donc, ces critères sont à prendre en considération. Il ne faut pas dire le contraire. Chaque homme, chaque femme, chaque humain, on est attiré par la beauté, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'humain, ça. On ne peut pas dire le contraire. Malheureusement, aujourd'hui, on se marie que pour la beauté. Il y a beaucoup de gens, ils cherchent, ils regardent le premier critère, c'est la beauté. Et les autres vont venir après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le premier critère, c'est la religiosité. Et parce que la beauté,
c'est éphémère.
La beauté, c'est quand tu te maries avec une femme qui est très belle, au début, bien sûr, c'est... Mais après, au bout de quelques années, cette beauté, on l'aura. On sait très bien, on sait, même si elle est la femme la plus belle au monde, la beauté, elle diminue avec le temps. La beauté elle-même, elle diminue avec le temps. Et notre vision de la beauté, elle diminue avec le temps. Et donc, l'argent aussi. L'argent, c'est que. Mais c'est important dans un couple. Et la famille, c'est aussi important. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le premier critère, c'est la religiosité de la femme. Et on a dit ça pour la femme, on peut dire exactement la même chose pour l'homme, n'est-ce pas? Celui qui a une femme, une fille à marier, ben il se base sur ces critères-là. La première chose à voir chez un jeune, c'est sa religiosité. Est-ce qu'il fait la prière? Oui ou non? D'accord? Est-ce que tu peux donner ta fille à quelqu'un qui ne fait même pas la prière? Moi, pour moi, la prière, c'est le minimum. C'est le minimum. On ne peut pas envisager de s'engager avec quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui ne se prosterne pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, le repentir est toujours possible. On peut dire, oui, je le marie de ma fille, Inch'Allah, par la suite, si il va se repentir. Ça, c'est une bonne intention. Une bonne intention. Mais il faut que ce minimum-là soit une exigence avant même qu'on s'engage dans le mariage. Parce que qui te dira que cet homme-là va commencer la prière, va s'attacher à la prière. Donc c'est quelque chose de très très important. Ça ne veut pas dire, attention, hein, quand je dis ça, je ne dis pas que la femme musulmane, quand elle est mariée avec quelqu'un qui ne prie pas, qu'il faut demander le divorce. Il y en a qui vont le dire. Non, non. Une femme qui est mariée avec un musulman n'a pas le droit de demander le divorce. Même si ce musulman, on va dire, boit, même si ce musulman ne respecte pas tout à fait sa prière, elle va patienter, elle va. Et combien de femmes musulmanes ont patienté avec leur mari, et que leurs maris sont peut-être avec nous à la mosquée aujourd'hui, et elles ont patienté, et Allah a guidé leur mari vers la religion musulmane par la patience et par la bonne parole. La prière, c'est quand même quelque chose, c'est le lien permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit la prendre en considération. Pour choisir un homme ou une femme, la première chose, c'est sa relation avec la prière. Est-ce qu'il respecte sa prière, est-ce qu'il est... Et la vision de la vie aussi. Parce que quand on se marie pour un projet. Le mariage, c'est pas juste une relation. Le mariage, c'est un projet de vie. Comment on voit la chose? Comment on voit la vie? Comment on voit l'avenir? Quelle est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est notre rôle dans ce bas monde? Donc ça, c'est des choses importantes. Comment on veut éduquer nos enfants? La deuxième chose, c'est husnul khuluq, la bonne moralité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et pourquoi ce n'est pas lié à la religiosité? Généralement, normalement, quand on a la religiosité, on doit avoir le bon comportement. Mais malheureusement, la religiosité n'est pas toujours sincère. Et quand elle n'est pas sincère, ça donne quelqu'un qui fait la prière, qui respecte les actes cultuels, mais de l'autre côté, il a un mauvais comportement. Et on le voit malheureusement. Les gens qui sont respectueux des actes de prière, des actes rituels, mais ça n'influence pas leur vie, ça n'influence pas leurs paroles, ça n'influence pas leur comportement, leur moralité. Et ça, c'est quelque chose de grave.
Non. Moi, j'ai parfait avec vous. Je
m'en ai envie. Oui, Charles.
C'est pas encore.
Ça va bien.
Pas sur moi.
Oui.
Pas sur eux.
Bah, oui.
Donc, quand je pose la question, je dis, tu fais la prière, il me dit non. Je peux lui donner ma fille?
Moi, sincèrement, j'exige. Je dis, si tu commences la prière, je peux te donner ma fille. Pour moi, c'est une exigence.
Parce que là, il y en a beaucoup, hein, beaucoup. Mm-hmm. Le gars, il donne sa fille à un Européen. Mm-hmm. Il chède. Mm-hmm. Avant, il chède. Il est pour épouser la fille, il chède. Tu fais l'attestation. Mm-hmm. Après, à savoir si il fait la prière ou il ne fait pas la prière.
Maintenant, pour cette situation, moi je la rencontre beaucoup. Hein. Beaucoup
aussi
de musulmanes, oui, on l'a beaucoup. On l'a beaucoup pour plusieurs raisons. Parce que les femmes musulmanes ne trouvent pas de musulmans. Ça, c'est quelque chose de. Les musulmans, les jeunes musulmans se marient beaucoup avec les non-musulmans. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que ce que nous croyons. Moi, je le vis tous les jours. Hein. Moi, je suis appelé à chaque jour. Hein. Mmh. Et ce qui fait, c'est que les filles musulmanes, elles restent comme ça, sur le carreau, ils n'ont pas de proposition. Combien de musulmanes cherchent à se marier et elles ne trouvent pas? Parce qu'il y a une pénurie d'hommes musulmans pour le mariage. Et c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Maintenant, quand une
musulmane... Pourquoi elle a connu cette fille? Pourquoi elle a connu cet Européen?
Bien sûr que le travail.
Bien sûr,
on sait très très bien comment ça marche aujourd'hui, malheureusement. Mais notre rôle, c'est quand on voit une musulmane qui va avec un non-musulman et que ce non-musulman vient me voir, moi j'ai ce cas-là. je l'ai souvent aussi, pour me dire, moi, j'ai découvert la religion musulmane à travers cette femme, d'accord ? Et j'ai envie de connaître la religion musulmane. Et que, quel est mon rôle, moi, en tant qu'imam ? Je lui dis, non, non, tu te maries que pour le mariage, sois tranquille. Non, parce que ça, c'est pas une... mon rôle, c'est de lui dire, écoute, bien, il n'y a pas de problème. Moi, je dissocie le mariage de la conversion. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Tu veux te convertir, ne conditionne pas la conversion par le mariage. Hein, c'est deux choses différentes. Moi, je t'explique les bases de la religion musulmane. Je te suis, tu me poses toutes les questions que tu veux. Et si tu veux devenir musulman, voilà, on fait la conversion. Quand je lui fais la conversion, il devient musulman, avec tous les droits et les devoirs d'un musulman. Et il me demande, je lui dis, la prochaine étape, c'est, on va voir pour le mariage. Et je le marie parce que, ben, tu sais, il s'est converti. Et dans tous les cas, si je ne les marie pas, est-ce pas donc, ils sont en train de vivre ensemble déjà. Et je le sais très bien, moi. On est dans une époque où on connaît les choses. Peut-être qu'ils sont déjà ensemble. Et la femme veut, par respect pour sa religion, par respect pour ses parents, mais par ça. Parce que les femmes, quand elles sont dans cette situation, les femmes musulmanes, ou les hommes musulmans, quand ils sont dans le haram, ils le vivent très mal. À chaque fois, et notamment quand il y a un enfant en conception, ça c'est un autre problème, mais en dehors de ça, ils le vivent très mal, ils veulent un peu régulariser leur situation. Et moi, mon rôle, c'est pas de les séparer, de leur dire. Et combien de fois il m'est arrivé, je vous raconte cette histoire, Mustapha, c'est Antoine qui s'est marié, qui s'est converti en 78. Et à Valence. Moi, je le connaissais depuis les années 90. Et c'est lui qui nous raconte. Il s'est marié, et quand il s'est marié, il est venu à sa femme et sa famille, la famille de sa femme, il dit, tu deviens musulman. Il ne connaît rien sur l'islam. Il dit, c'est pas grave, voilà, je deviens musulman. Je lui amène à la mosquée, devant l'imam, il dit, je dois de la c'est juste une parole, c'est même pas sur quoi il s'engage. Et il devient musulman et il continue à vivre comme avant. Sa femme lui propose d'aller au Maroc voir sa famille. Ils vont au Maroc, il rencontre les gens simples, il va à la mosquée, il découvre quelque chose. Il est musulman, mais il ne reconnaît rien de l'islam. Et là, il y a un retour. Subhanallah. Cet homme-là, quand il est revenu de ce voyage-là, et depuis, il ne quitte jamais la mosquée pour la prière de Fajr. Hein, il habite à 13 km. C'est quelqu'un. Et au bout d'un moment, il a eu des problèmes avec sa femme, parce que sa femme lui a dit, mais je ne suis pas engagé avec toi. Moi, je voulais être trop light, juste comme moi. Ouais. Lui, il est devenu un vrai musulman. Il fait la prière à la mosquée, il étudie le Coran Karim, il a fait la langue arabe. C'est le plus ancien musulman de Valence. Et jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, ils ont des enfants. Sa femme, alhamdoulilah, elle a compris par la suite. Ils sont devenus des gens extraordinaires. Extraordinaires. C'est lui qui l'a ramené à l'islam. C'est lui qui l'a ramené à l'islam. Donc, nous ne sommes pas des juges. Moi, quelqu'un vient me dire, je veux devenir musulman. Je ne vais pas lui dire, non, tu te maries que pour... tu deviens musulman que pour le mariage. C'est pas mon deux. Non. Moi, je lui dis, écoute... Je n'ai aucun problème, mais le mariage c'est quelque chose, la conversion c'est autre chose. On commence par la conversion. Je t'explique, tu me poses des questions. Si tu es convaincu et tu témoignes que tu es convaincu, bismillah, tu deviens musulman. Et après, on passe au mariage et je les marie, il n'y a aucun problème. Et cette histoire-là, la conversion à l'islam peut avoir comme cause initiale la connaissance d'une femme ou d'un homme. Ça marche dans les deux côtés. Hein. Il y a des femmes non musulmanes qui ont connu des hommes musulmans et qui sont devenues musulmanes. Par le comportement de leur mari, par l'engagement et la moralité. Ça existe. Ça existe. Un homme musulman et une femme non musulmane, c'est pas compliqué. On peut les marier. Parce que c'est pas haram de les marier. Du moment où c'est l'homme qui est musulman. Mais une femme musulmane avec un non musulman, ben c'est pas, on ne peut pas les marier s'il ne devient pas musulman. Pas. Vous voyez un peu les choses. Moi, pour la prière, je reviens à la première question. Pour la prière, moi, j'exigerai, moi, je demande à quelqu'un qui a une fille, qui veut marier sa fille, que l'homme se présente, je lui dis sincèrement, non, je ne prie pas. Je lui dis, mon fils, moi, ma fille, je la donne à quelqu'un qui prie. Donne-moi l'engagement que tu vas commencer à prier, commence à prier, et viens me demander ma fille, je te la donne les yeux fermés. Mais que ce soit une condition, que ce soit une condition. Quand tu lui demandes 3000 euros pour le mal à d'autres, ben demande-lui, ça c'est encore plus important. Pour nous, c'est plus important pour donner sa fille et s'engager, parce que celui qui ne respecte pas sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ben, il peut ne pas prendre soin de sa fille, ou de cette, son épouse. Oui.
J'ai une raison que l'homme musulman peut épouser un musulman et la fille musulmane n'a pas le droit d'épouser un
musulman. Oui, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que l'homme, la femme, on sait très très bien que la femme, par rapport à son mari, dans un couple, la gestion du couple, la gestion des décisions importantes, ça revient à l'homme. Et l'éducation des enfants aussi. Les enfants, généralement, ils suivent la religion de leur père. Et donc, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé, dans un milieu musulman, que le mari, qui soit musulman, peut se marier avec une chrétienne, une juive, une croyante. Hein. D'accord ? Ça, c'est autorisé. Mais une femme musulmane ne peut pas se marier. Parce que le musulman, quand il se marie avec une chrétienne, il a l'obligation de l'amener à l'église. Tu vois, si elle lui demande de l'amener à l'église, ben il l'amène à l'église. Parce que nous, musulmans, on reconnaît les autres. Moi, je suis musulman, je reconnais Jésus. Je n'insulte pas Jésus, n'est-ce pas? Je n'insulte pas Moïse. Donc, ce respect-là fait que l'homme a l'obligation de respecter la religion de sa femme et d'aller... de l'amener chez ses parents si elle veut aller, je sais pas, à la messe, des choses comme ça. Alors que si c'était dans l'autre sens, une femme musulmane chez un non-musulman, qu'est-ce qu'il dit le non-musulman? Est-ce qu'il respecte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ben, il insulte matin, midi et soir. Parce que pour eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un imposteur. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens et les juifs ne respectent pas notre religion, ils considèrent que notre religion c'est une religion de mensonge, carrément. Ben, comment tu veux qu'ils vont respecter la femme musulmane qui est chez eux? Ben, ils vont l'écraser. Ils vont soit la rendre en musulmane, en lui imposant leur... Mais nous, on ne va jamais imposer notre religion à une chrétienne. Elle est là, on lui propose, si elle veut devenir musulmane, bismillah. Et généralement, si l'homme est bon, 99% des femmes chrétiennes ou juives qui sont mariées avec des musulmans, elles deviennent musulmanes. 90%. Si l'homme est bon. Et c'est pour ça qu'Allah a autorisé aux musulmans de se marier, parce que Allah, dans sa grande sagesse, il sait que l'influence, elle est beaucoup plus importante de l'homme vers la femme, et que le respect qu'on a envers les autres religions fait que Allah nous autorise de se marier avec eux, parce qu'on ne va pas les écraser, on ne va pas leur imposer notre religion. Alors que eux, puisqu'ils ne reconnaissent pas notre religion, ben ils vont... Donc, as-salahu wad-din, fadfar bidati al-din, taribat yadak. Après, le deuxième critère, on a dit husnul khuluq, le bon comportement. Le bon comportement va avec la religiosité. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a un phénomène. Des gens qui sont religieux dans les apparences, mais dans le comportement, il n'y a rien. Dans le comportement, il n'y a rien. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que la religiosité et le comportement, ils vont de pair. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, les meilleurs parmi vous, ceux qui sont les plus proches de moi le jour du jugement dernier au paradis, sont ceux qui ont le meilleur comportement. Il dit, il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance que le comportement, le jour du jugement dernier. Ça pèse plus lourd que les actes rituels. C'est quelque chose de... Un homme doit respecter sa femme, il doit respecter, une femme doit respecter son mari. Et ça, ça vient de, du comportement. Et le comportement, c'est quoi? C'est le langage, essentiellement, c'est le langage, n'est-ce pas? C'est quoi un bon comportement? C'est quelqu'un qui parle bien. C'est quelqu'un qui respecte les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas de préjugés. C'est quelqu'un qui ne va pas suspecter sa femme ou son mari. C'est ça le bon comportement. Le troisième critère, c'est la beauté. Il dit que ça, c'est quelque chose qui est humain, normal. Et on doit prendre cela en considération. D'accord? Mais il ne faut pas que ça soit la première et la raison principale. Malheureusement, aujourd'hui, la raison principale, c'est celle-ci. Mais le fait que on regarde sa femme avant le mariage, avant de s'engager, on a le droit, parfois même le devoir, de voir sa future épouse avant de s'engager, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il dit à l'un de ses compagnons qui s'est marié avec une Médinoise, lui dit, va la voir, parce que cela peut faire naître de l'affection entre vous. Le fait de voir, il peut vous faire naître de l'affection entre vous.
Ou le contraire.
Les deux. Elle le voit, il en est, bien sûr. C'est dans les deux sens. Quand le prophète Hassan dit un hadith, sauf cas exceptionnel, il précise que ça c'est que pour les femmes ou que pour les hommes, les hadiths s'appliquent aux hommes et aux femmes. Le prophète Al-A'mash قال كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. Chaque mariage qui se fait sans aucun regard, sans avant le mariage, il se termine mal d'après Al-A'mash. Et Al-Nadar, on sait bien que quand on regarde une femme, on regarde sa beauté, on regarde pas sa religiosité, on regarde quand on la regarde pour l'aspect physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit خَيْرُ نِسَائِكُمْ مَنْ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا سَرَّتْ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. Les meilleures de vos femmes sont celles que quand son mari la regarde, elle le rend heureux. D'accord? Elle le comble de joie. Il l'aime. Parce que là aussi, hein, la beauté, c'est pas forcément aussi que physique. D'accord? La beauté, elle peut être dans la parole, dans le comportement, dans le... C'est ça aussi. Le fait de voir sa femme, elle le remplit de joie. Et quand elle lui ordonne quelque chose, elle obéit à son ordre. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on commence à perdre. Une femme doit obéir à son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, hein, ça nous gêne parfois de le dire. Hein, ils sont gênés, les gens. Non, la femme doit obéir à son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. La femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand la femme, elle fait ses prières, quand elle jeûne son char, et quand elle obéit à son mari, hein, Allah lui ouvre toutes les portes du paradis, entre par n'importe laquelle. Donc aujourd'hui, malheureusement, les épouses ne respectent pas cela. Ils disent, bon, t'as ton avis, moi j'ai mon avis. Et quand il y a des décisions importantes dans le couple, bien sûr on peut les prendre à deux. Bien sûr le mari doit consulter sa femme, c'est normal. On ne peut pas prendre des décisions importantes sans la consulter. Mais au bout de la chose, l'homme doit prendre ses responsabilités et décider. Et même si cette décision ne va pas dans le sens de sa femme, ben c'est à lui de décider. Et la femme doit suivre son mari dans les grandes décisions du couple. Et quand il est absent, elle le préserve dans son honneur, elle, et donc ses biens. Un jour, on raconte qu'à l'époque de Omar, un homme s'est marié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait beaucoup de cheveux blancs. Ben, il a mis du noir pour cacher les cheveux blancs. Et au bout d'un certain temps, les cheveux blancs se sont apparus. Et la femme a dit, mais moi je me suis marié avec quelqu'un d'autre, c'est pas toi. Et Omar l'a frappé. Et il lui a dit, tu as triché. Tu as triché. Parce que la famille a dit, nous croyons qu'il était jeune. Donc on n'a pas à cacher ses défauts. Donc cette règle-là s'applique à la femme et à l'homme. Si une femme cache un défaut, que le mari le découvre après, ben c'est un halal. Ça aussi, c'est une tricherie. Donc on doit tout dire. Une femme qui a une maladie, un homme qui a une maladie, il sait que cette maladie peut affecter la vie du couple, ben il doit le dire. Il ne doit pas le cacher. Ce n'est pas le jour du mariage ou un mois après que la femme découvre qu'il avait une maladie ou que l'homme découvre qu'elle avait une maladie. On doit le dire. Les choses importantes, ce n'est pas les choses banales. Les choses banales, on n'a rien à dire. Elle est myope, par exemple. On va dire elle est myope. Si elle est myope, il n'y a pas de problème. Oui, il est myope. Il a des lunettes. Même si le jour J, il vient sans lunettes, c'est pas grave, ça c'est pas. Mais il ne peut pas avoir d'enfant. Ou elle ne peut pas avoir d'enfant. Très très grave. Ou elle a une maladie incurable. Il est diabétique ou elle est diabétique. Même si le diabète aujourd'hui ça se traite, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Mais on doit le dire. Comme ça, au moins les choses. La quatrième chose, c'est qu'elle doit être un mahab aisé. Comme on a dit tout à l'heure, on ne doit pas exagérer dans le mahab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié toutes ses filles avec un mahab raisonnable. Toutes ses filles. Mais il n'a jamais rien demandé. Toujours il demandait quelque chose.
Là, il reste 4 minutes, mais on va continuer. On va faire l'Aden et l'Ikhama en même temps.
Vous faites l'Aden et vous attendez 10 minutes aussi?
Non. Vous faites l'Aden et l'Ikhama dessus.
Parce qu'à la mosquée Rahman, on a décidé de ne plus attendre 10 minutes.
Ah, d'accord.
Parce que ça fait trop tard. Hein. Je ne sais pas si vous voulez qu'on finisse un peu avant. Ou les gens ont l'habitude de venir à 10 minutes après? C'est comme ça,
voilà. Là, on a réglé à 5 minutes.
5 minutes après l'échec.
Mais pendant les danses, on fait.
Non, mais allez, 5 minutes.
On ne fait pas les 5 minutes, on fait les rampes, les dernières informations.
Ah, très bien.
Ça fait qu'il reste alors maintenant 4 et 7. Allez, on va dire 8 minutes.
Très bien. Donc, le fait que le mahr soit aisé, facile à donner. Elle mourra là, tout le monde mourra. Mais un jour, Omar ne sera pas. Il a vu que les gens demandaient trop pour le mahr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur le minbar. Il a fait une khutbah. Il a dit aux gens, mais pourquoi vous demandez trop? Pourquoi c'est quelque chose qui... Et il a dit, dorénavant, moi je fixe le mahr à une valeur. Personne ne peut demander plus. Et au fond de la mosquée, parce qu'avant, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée des compagnons, Omar al-Khattab était calife à ce moment-là. Les femmes étaient derrière les hommes. Il y a une femme qui se lève, il dit, Ya Omar. Et tout le monde l'entend. Ya Omar, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de fixer quelque chose qu'Allah n'a pas fixé? Et Omar lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle cite le verset. Wa in ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu dhulman wa buhtan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous donnez à l'une d'elles un quintal. Quintal, c'est quoi? Quintal, c'est 100 kilos. N'est-ce pas? Quintal, c'est 100 kilos. Mais quintal, dans la langue arabe, ça représente quelque chose d'énorme. 100 kilos, est-ce que Allah a dit 100 kilos de blé, 100 kilos d'or? D'accord? Allah n'a pas précisé. Et Omar al-Khattab, quand il a entendu la femme lire ce verset-là, il a dit, astaghfirullah. Je retire ce que je viens de dire. Regardez comment les hommes, Omar al-Khattab, ils reconnaissaient. Elle lui a cité un verset auquel il n'avait pas pensé. Et cette femme lui a rappelé que Allah dit, quand vous donnez à l'une d'elles un qintar et que vous consommez le mariage, vous n'avez plus le droit d'en prendre. C'est fini. Ça y est, vous avez consommé le mariage. Même si vous décidez de divorcer après, vous ne exigez pas un remboursement. Mais elle lui a dit, Allah nous donne un qintar et toi tu veux fixer Et Omar, il a dit, astaghfirullah, je retire ce que je viens de dire. Radiallahu anhu. D'accord ? Al-Khamisa, la cinquième chose, c'est que la femme doit être waloud. Waloud, c'est avoir des enfants. Elle veut avoir des enfants. Aujourd'hui, vous avez des femmes, quand vous discutez avec elles pour le mariage, elle te dit, moi je veux avoir un enfant ou deux. D'accord ? Ben, c'est à toi de voir. Si toi aussi tu as le même projet, il n'y a aucun problème. Mais il faut être sûr. Il faut être sûr. Parce que, comme on l'a dit au début, en islam, on veut avoir.
Elle a dit un enfant ou deux. Peut-être un enfant, il ne veut pas lui donner une bonne
parole. Carrément. Allah ne leur donnera peut-être rien.
Zéro.
Oui. Mais ce genre de choses doivent être discutées avant le mariage. Parce que le mariage doit être basé sur la clarté. Et on ne doit pas le découvrir après. Il ne faut pas qu'un homme qui veuille 10 enfants se marie avec une femme qui ne veut que 2 enfants. Ben, il faut qu'on soit clair. Et ça, c'est des choses qu'il faut clarifier dès le début. Il ne faut pas les laisser sans... Pour celui qui n'a jamais été marié, un jeune, il est recommandé qu'il se marie avec une jeune comme lui qui n'a jamais été marié. D'accord ? Un jour, Jabir ibn Abdillah, c'est un homme qui a perdu son père, martyr, et quand son père est mort, il lui a laissé plusieurs sœurs. Et Jabir était jeune. Un jour, il s'est marié. Il vient le lendemain voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Ya Rasulallah, je me suis marié hier. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, « Ya Jabir, tu t'es marié avec une femme, Zayyib ou Bikri ?» Jeune ou déjà marié. Et Jabir lui dit, non, une femme déjà mariée. Une femme qui a déjà été mariée plusieurs fois.
Deux minutes.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi ya Jabir, pourquoi tu n'étais pas marié avec une fille comme toi, tu joues avec elle et elle joue avec toi, de ton âge. Il lui dit, ya Rasulallah, moi mon père est mort, il m'a laissé plusieurs sœurs, et pour que cette femme puisse s'occuper de mes sœurs. Donc il avait cette... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit suite à cette remarque. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuhimmana rushdana wa maghfir dhunubana wa astur 'uyubana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.